Ce soir, nous diffusons la seconde partie de l'entretien avec Pierre Guyotat. Je rappelle que depuis la création de cette émission, Pierre Guyotat est une constante référence. Nous n'avons cessé de parler de son œuvre et au mois de juin, nous avions diffusé un entretien avec Catherine Brun, sa biographe. Il s'agit donc d'un aboutissement pour cette émission, d'avoir pu réaliser cette interview de lui, chez lui, le lundi 11 juillet 2005. L'entretien évoque régulièrement Progéniture, paru en 2000. Il est essentiel de lire également ses autres textes. Il y a le livre Prostitution, Éden, Tombeau pour 500 000 soldats, et puis il y a aussi Explication, un livre d'entretien brillant et éclairant autour de Progéniture. Il y a Vivre, il y a Littérature interdite, qui sont deux recueils d'articles, de textes et d'entretiens. À lire également, sorti cette année, Les carnets de bord, publiés chez Ligne Manifeste, qui sont les carnets écrits par Pierre Guyotat de 1962 à 1969. Et puis Pierre Guyotat et ses biographiques, écrits par Catherine Brun. Il me reste alors à vous souhaiter une bonne écoute et à remercier Pierre Guyotat tout d'abord d'avoir accepté cet entretien et ensuite de m'avoir reçu si agréablement. Est-ce que c'est une rigueur vis-à-vis de la logique qui fait que vous avez des difficultés à arrêter définitivement un texte? Je m'explique. C'est Catherine Brun d'ailleurs qui l'explique, qui explique bien ce dilemme, je la cite. « Faut-il, après remaniement et nivellement du début sur la fin, livrer une suite textuelle homogène, ou bien donner la vérité brute, le premier jet, le procès verbal de l'inspiration ?»
Oh, arrêter définitivement un texte... Arrêter déjà, c'est... Son détail, dans le détail, déjà. Avant même la fin finale. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure des fins, hein, des terminaisons de... Vous savez, j'en pense que j'en pense, hein, ce que je vous ai dit. Pour moi, ça n'existe pas tellement. Il y a aussi une chose qu'on oublie aussi, c'est qu'un auteur... Un auteur a peut-être envie de passer à autre chose aussi. Et à ce moment-là, on trouve toujours des raisons très profondes de terminer une fiction. Ça va de soi. La fiction ne dure que le temps de la non-fatigue de son créateur, hein, de la non-saturation. Je crois, moi il me semble. Vous savez, il y a des fins de romans qui sont d'une extrême rapidité quelquefois. Hein. On a l'impression que on n'a pas tellement envie d'aller plus loin. Ou des fins de musique même. Ce qu'on appelle la coda, par exemple. Une sorte de précipitation pour en finir aussi. Parce qu'on veut passer à autre chose. Parce que c'est une structure, la structure est un peu usée, etc. On veut passer à autre chose. C'est une chose aussi qu'il faut penser. À quoi il faut penser? C'est qu'un artiste aussi a besoin de changer de support aussi. De support. A besoin de passer d'un opéra à autre chose, à un quintet, d'un quintet à un opéra, etc. C'est pas du tout... Alors, c'est la commande, souvent, qui crée. La commande est une chose très importante, bien entendu, dans l'existence d'un artiste. Très importante. Dans le sens que même la commande est aussi une preuve de confiance. Donc c'est une chose très importante, la commande. Alors la commande peut effectivement commander l'œuvre, la terminaison d'une œuvre, etc. Vous savez, il y a des œuvres qui ont été terminées avec une rapidité extrême pour pouvoir satisfaire la commande. Il ne faut jamais détacher, même des œuvres comme Progéniture qui sont comme ça, apparemment détachées d'un contexte de commande. Vous savez, les œuvres dépendent de la vie. Les œuvres dépendent de la vie.
Est-ce cette difficulté de donner une forme définitive qui fait que vous avez de nombreux textes inédits, comme par exemple les histoires de Samora Machel? Et je suppose que ces textes inédits représentent un poids, le poids de l'œuvre inédite. Est-ce que c'est une angoisse?
Pas une angoisse, non. Ça l'a été. Ça n'est plus. Ça n'est plus. Plus les choses s'éloignent, moins c'est une angoisse. Si vous voulez, on a surtout l'angoisse de la chose à faire. La chose qui est en train, si vous voulez. Non. Du reste, je ne suis pas le seul qui ait des inédits. Il faut déjà penser aux... Il faut déjà, avant même de penser aux œuvres complètes, à l'œuvre vraiment... inédite, c'est-à-dire histoire de Samora Machel, etc., et d'autres choses. Il faut surtout parler, moi, à mon avis, de ce qui n'est pas utilisé dans une œuvre. de progéniture, par exemple, il y a une quantité qui fait à peu près le quart de progéniture, en s'agissant de 1 et 2 seulement. Le quart qui est parti en chute, que je n'ai pas utilisé. Des épisodes entiers, que je n'ai pas gardés, parce qu'ils étaient un peu périphériques, parce qu'ils m'ont servi à lancer d'autres morceaux, etc., ou qui ne rentraient pas dans la logique, etc. Donc c'est quand même là la décision de couper a été prise, de couper ou d'oublier presque, parce qu'on peut oublier ces chutes, de reste je ne sais même pas où elles sont, et du reste personne n'en parle, je crois, même. Il y a non seulement les versions successives, parce qu'il y a quand même des versions successives à progéniture, mais il y a des chutes, ce qu'on appelle des chutes, c'est-à-dire des morceaux non utilisés, comme il y en avait dans Tombeau, comme il y en a eu dans Eden aussi, mais dans Tombeau il y en a eu beaucoup, et qui ont soit disparu, ou qu'on peut retrouver, mais il faudrait avoir quelqu'un qui ait un œil très averti, un œil perçant pour trouver, bien sûr qu'il y a. Ça c'est un problème aussi, une chose intéressante. Il y a une progéniture, je vous dis, il y a peut-être pas un quart, mais disons un cinquième en chute, ce qui est beaucoup. Enfin, il faudrait calculer, bon, peut-être que j'exagère. Je sais pas. En train, il y en a beaucoup en tout cas.
Pour terminer sur ce sujet, je souhaitais vous demander, est-ce que c'est une obligation pour vous de publier maintenant ? L'action d'écrire vous suffit-elle ? Ou avez-vous toujours ce besoin de publier, comme ça l'a pu l'être, par exemple, dans les années 60 ou 70, où vous étiez beaucoup battu pour être publié ?
Ça, encore, c'est une légende, encore. Parce qu'à un moment donné, j'ai effectivement pas publié. Alors, on a tout de suite, c'était du reste sympathique, on a tout de suite dit que je ne voulais plus publier. Et même encore, avant que je publie Progéniture, en même temps même que je donnais le manuscrit à Mme Antoine Gallimard, il y avait des gens relativement proches qui disaient à la cantonade que je ne publierais plus. Donc ils ne savaient pas. Je n'ai jamais voulu ne pas publier. C'est pas quelque chose qui me... Je viens... Il y a eu, pardon, des publications récentes et je ne peux pas dire que ça me mette dans un état de bonheur particulier. Mais je le ferai. Le test que je fais maintenant, je le vois, surtout je le vois... parce que je le fais quand même malgré tout, mais ça sera beaucoup trop long, pour le théâtre, pour un théâtre, vraiment un théâtre, je le vois diffusé en tout cas, je le vois montré, je le vois prononcé, enfin je l'entends prononcer, je le vois mis en scène, et je le vois publié aussi, bien sûr, je le vois publié, mais ça m'indiffère un peu, si vous voulez, pour l'instant. Je n'ai plus du tout le même plaisir qu'autrefois à voir un volume du tout. Parce que mon intérêt est ailleurs. Le volume publié lui-même, ça me touche plus tellement. Ça me touche plus tellement. Mais ça ne veut pas dire du tout que je n'y pense pas. Et que je... Non, non. Disons que je crois que créer ne suffit pas. D'abord, c'est une question au fond... Rien ne suffit. Même ça, ça ne suffit pas. D'abord parce que créer fait lever en fait tellement de pensées dangereuses, même d'une certaine façon, des pensées de disparition, des pensées de dissolution, des pensées de relativité absolue. Vous savez que au fond. Ça fait lever en tout cas le désir de réaliser l'irréalisable, de réaliser ce qui n'a pas de support, ce qui n'a aucun support, même le support de, je sais pas, de la sainteté, de ce genre de choses. C'est le rêve d'une réalisation sans support. Alors là, allez, trouver ce que vous voulez, je sais pas. Enfin, c'est des sentiments dans lesquels je suis en ce moment, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a le désir d'une telle totalité, d'une telle simultanéité de choses que, bon, c'est absolument, c'est non seulement, mais c'est insoutenable, voilà. Alors donc, l'écriture serait une espèce de moyen provisoire de calmer cette... Mais c'est un moyen... Mais pourtant, je suis dedans en ce moment, et je n'en éprouve pas forcément un plaisir extrêmement grand, mais c'est sans doute très circonstanciel. C'est possible.
Dans votre œuvre, vous mettez en doute la nature humaine triomphante, l'humanisme. C'est ce que vous dites très clairement dans l'explication, d'ailleurs. C'est quelque chose qui vous appartient en propre, qui vous appartient très tôt dans votre démarche de créateur. Comment avez-vous fait pour garder cela, pour ne pas lâcher du lest et pour pas changer d'idée là-dessus? Car c'est à contre-courant de la plupart de la création. Il y en a beaucoup qui ont renoncé. Donc là, je souhaiterais vous questionner sur la volonté de l'artiste qui tient dur comme fer.
C'est curieux parce que je suis par ailleurs d'une nature optimiste et plutôt... Je ne supporte plus le dénigrement, l'autodénigrement des êtres eux-mêmes, des peuples. Et nous sommes bien placés en France pour éprouver ce genre de sentiment, l'autodénigrement permanent. Je trouve ça insupportable, mortifère, horriblement dangereux pour les voisins, pour les citoyens eux-mêmes, pour les gens, pour les individus. Mortifère. Donc je suis absolument... Et je suis aussi contre la vision, le petit bout de la lorgnette, ou le petit trou de la serrure. J'ai toujours détesté ça, s'agissant de tout, de politique, tout ça, je... déteste ça. Je suis pour moi inadmissible. C'est pas du tout mon truc. C'est normal. Je vois, comme je vous ai dit, je vois dans chaque être l'énergie qui sous-tend l'être, cet être. Donc je ne peux pas du tout m'arrêter à des petites turpitudes, des affaires, des machins. Ça m'intéresse pas du tout, ces choses-là. Mais j'ai pas ailleurs. Je supporte pas non plus le discours. Pas triomphant, mais le discours qui cache la réalité organique, la réalité, la complexité de l'être humain, la complexité du monde, tout ça. Vous voyez, c'est les deux choses à la fois. J'ai une vision optimiste, positive du monde, vraiment chevillée, vraiment, toujours. Mais en même temps... Le discours humaniste qui solutionne, qui nous guette tous. Vous savez, on voit bien quand on fait, par exemple, comme je l'ai fait, des articles pour la presse, par exemple, dans des occasions particulièrement dramatiques, je dis pas ce style, mais cette chose-là revient. Et c'est normal, parce que c'est... on est obligé de tenir... comment dirais-je? Comment exprimer un discours... Comment exprimer une pensée optimiste, un sentiment optimiste de l'existence? Vous exprimez, il y a des mots pour ça, vous êtes guetté par l'humanisme. Comment dire? Si vous voulez, je suis, comment dire? Parce que vous avez, j'ai remarqué souvent que les plus humanistes, ceux qui ont des discours humanistes, sont en fait, s'agissant de comprendre les autres, les individus, hein, parce que tout est là aussi. De comprendre des individus réels, pas de comprendre une théorie, une idéologie, des principes comme ça, des choses, etc. Non, comprendre des individus exige d'abord un optimisme très grand, et puis un effort très grand, et une nature aussi, une nature généreuse, disons. Et puis en même temps, ça exige que vous ayez conscience aussi de l'effort que fait chaque individu pour vivre aussi. Donc, moi, je peux dire que je n'ai pas du tout un sentiment humaniste, parce que d'abord, je considère que l'homme n'est pas le seul individu sur la Terre, d'abord, premièrement, et d'autre part, l'humanisme, c'est une construction, humanisme, c'est une construction, si on n'est pas humanisme, qu'est-ce que ça veut dire? On est forcément humaniste, si on est être humain, on est forcément humaniste, ça va de soi. Donc tout ça est stupide, ce discours est stupide pour moi, car... On peut être tout à fait humaniste et être par ailleurs mesquin, et avoir par ailleurs une vision mesquine de l'individu dans le détail, si vous voulez. Il y a des humanistes qui sont formidables pour faire des articles merveilleux, des discours, etc., et qui sont dans le réel incapables de comprendre l'autre, et qui le jugent bêtement. Vous avez des humanistes qui sont l'humanisme à tout craint, et qui par ailleurs sont les mêmes qui donneront une interprétation mesquine du pouvoir, par exemple, ou de l'action d'un homme politique, si vous voulez. Et je ne supporte pas ça, moi. Parce que je ne supporte pas qu'on ne comprenne pas l'effort que fait l'autre pour faire ce qu'il a à faire, pour faire ce qu'il s'est fixé comme action. Je ne comprends pas. Je pense, moi, que en gros, chacun fait ce qu'il peut, je crois, dans une société. Moi, je suis très convaincu de ça. L'humanisme est dangereux aussi parce qu'il isole. Il isole le monstre, si vous voulez. Quand il y a dans une société quelqu'un qui, un Hitler ou un assassin ou je ne sais quoi, qui se développe, vous savez, il ne se développe pas tout seul. Hein. Un monstre se développe parce qu'on l'aide aussi à se développer. Et je trouve que l'humanisme ne tient pas compte du tout de ça. L'humanisme, c'est bon pour la société moyenne. Or, notre grand problème, c'est de penser le monstre aussi, et de l'apprivoiser, de l'amadouer, faire en sorte qu'il n'agisse plus. Et je trouve que là, notre siècle, le XXe siècle, a été vraiment très pauvre là-dessus. Je pense à des siècles précédents où, avec la religion aidant, enfin, la foi aidant, d'une certaine façon, il y a eu volonté chez les gens de s'occuper du monstre, je crois. C'est ce qui nous manque, nous, dans notre pensée laïque étroite, parce que notre pensée matérialiste étroite, c'est qu'on rejette le monstre. Et on a tort. Moi, je suis bien placé pour le savoir aussi. Parce que, d'une certaine façon, vous voyez, moi, c'est une façon, peut-être, ce que je fais, c'est une façon d'apprivoiser le monstre qui est en moi, ou le monstre qui est partout. Je me dis si, au lieu de, comment dirais-je, de... Avec Hitler, prenons Hitler par exemple. Quand on pense, c'est extraordinaire, qu'il n'y a eu personne autour de lui, et personne à l'extérieur, qui soit venu de l'extérieur, un thaumaturge, un philosophe, un grand, j'en sais rien, une tête, vous voyez, une tête, pour venir le voir et chercher à apaiser cette folie, cette folie. Meurtrière, cette folie de haine. Il n'y a eu personne. Et je pense à certains monstres du passé qui ont été apaisés parce que quelqu'un est venu, un saint homme, on ne sait rien, un truc comme ça. Il y a eu des cas comme ça. Il est venu voir le monstre en place, le monstre en pouvoir. Je pense qu'il faut, si on croit dans l'homme, l'humaniste ne croit pas en l'homme s'il rejette le monde. Car s'il croit vraiment en l'homme, il doit pouvoir se dire qu'il peut, lui, convaincre le monstre de un monstre politique en tout cas. Bon, il y a des monstres il y a organiquement quelque chose qui va pas, qu'il faut soigner. Mais ça, il faut soigner. On a peut-être les moyens aujourd'hui. Vous voyez, il faut pas isoler le monstre. Je dis pas qu'il faut libérer tous les monstres des prisons. C'est pas tout ce que je veux dire. Je pense que là, il faut au contraire, il faut être beaucoup plus prudent. Mais je pense qu'il faut chercher. Vous savez, le XXe siècle nous a habitués à rejeter l'autre, à rejeter beaucoup celui qui n'était pas comme nous, etc., celui qui pensait différemment. Les blocs se sont opposés d'une façon effroyable, meurtrière. Les gens se sont haïs, si je peux dire, par nécessité, par volonté idéologique, avec les meilleures intentions du monde, en plus, quelquefois. Et il faut que ça cesse. Il faut plus qu'on retombe là-dedans. Je pense que les siècles précédents étaient moins sectaires, moins radicaux. On a peu d'exemples au XXe siècle de gens qu'on ait pu convertir en soi. Voilà le mot de conversion. Par contre, dans les siècles précédents, vous en avez à l'appel. Que quelqu'un qui représente la pureté, etc., puisse aller au-devant de celui qui est animé pour des raisons qu'il faut comprendre aussi, qu'il faut chercher. Il faut prendre le temps de comprendre avant que le monstre soit tout à fait levé et ait obtenu le pouvoir. Oui. Si quelqu'un s'était occupé d'Hitler dans les années 20 ou même les années avant 20, entre la fin de 14-18 et sa prise de pouvoir déjà au sein du parti nazi, avec la face du monde aurait changé. Et apparemment, c'est quand même terrifiant, ça, de penser que on peut, ça s'est vu dans le passé, on peut. Un homme a une sensibilité, il est sujet aussi à des illuminations, des choses comme ça, des changements. Saint-Paul, tout ça, etc. Le monde, l'histoire est pleine de gens comme ça. Pourquoi dans les moments... Et c'est pour ça que les massacres ont été horribles. Les exterminations, les exclusions, les camps, tout ça, ont été les plus féroces. Parce qu'il n'y avait plus de... Il n'y avait plus de moyens de parler. Et les gens se sont parlé dans les camps. C'est-à-dire le bourreau, le monstre et la victime n'ont pu se parler que dans les prisons et dans les camps. Vous vous rendez compte? Mais c'était trop tard. Moi, je pense que c'était possible avant, si je peux dire. Vous voyez, et c'est pour ça que la chose a été féroce. Parce qu'il n'y a pas eu de contact. Et quand il y a eu contact, c'était un contact horrible. Moi, c'est une idée que j'ai depuis très longtemps. Hein. Je ne suis pas le seul à l'avoir, hein, je peux vous le dire.
Dans l'explication, vous dites « Tout ce que je le fais pour me débarrasser de la sexualité. Je n'en veux pas, je veux évacuer ça. On peut lire progéniture comme mon cri de révolte maximum contre le sexe. Cette fatalité sexuelle, et donc votre volonté d'évacuer cette fatalité, est-ce un moteur primordial dans votre œuvre? Et surtout, est-ce toujours un moteur pour ce que vous écrivez?
Ah oui, le problème, c'est qu'en même temps, cette fatalité sexuelle, c'est aussi cet élan qui permet de créer aussi. Hein. Permet de créer, c'est évident. L'élan sexuel lui-même, vraiment déterminé comme tel, hein, dans sa limite, si je peux dire. C'est curieux parce qu'on passe sa vie dans ce déchirement permanent entre l'abstrait, le concret, enfin ce qui est considéré comme l'abstrait comme concret, entre la pensée et la chair, enfin bref, toutes ces choses-là, le cosmos et l'individu, etc. Et en fait, on ne peut pas imaginer de vivre autrement, par ailleurs. Alors, il est possible que ce besoin d'évacuation du sexuel, c'est peut-être le besoin d'évacuer ce qu'il y a d'animal aussi dans l'individu. Il ne faut pas négliger ça tout de même. Hein. C'est une chose très importante, l'animal. C'est l'animal dans l'homme dont nous venons. Nous sommes des animaux. Il faut quand même penser que pendant très longtemps, la pensée commune, c'était que nous avions été créés quand même. À l'image de Dieu, donc créés comme homme tout de suite. Vous vous rendez compte tout ce que ça a pu influencer comme pensée, comme art, comme vie pendant des millénaires. Aujourd'hui, que depuis, disons, le 19e siècle ou un petit peu avant, depuis qu'on sait, depuis qu'on a pu prouver encore que ça soit à nouveau remis en question maintenant, je crois en partie, on sait d'où nous venons, enfin l'évolution. Extraordinaire révolution, bien entendu. La révolution par excellence de l'histoire humaine. Tout change à ce moment-là. Et on a beaucoup plus conscience de cette fatalité-là. C'est pour ça qu'il faut regarder beaucoup les animaux. Il faut regarder énormément vivre les animaux, les regarder autant qu'on peut, si c'est possible encore, les voir faire et voir ce qui nous différencie, nous, dans l'image que nous avons de nos comportements. Attention, parce que quand on commence à imager, imager, vous voyez, il y a tellement de gens qui sont tellement exclusifs sur le sexe, qui rejettent les autres sexualités, etc. Mais s'ils se voyaient eux-mêmes en train de copuler d'une façon tout à fait normale, admise par la société, etc., vous voyez, il faut toujours penser à ça. Il faut se penser en train de satisfaire à des besoins naturels. Il ne faut jamais oublier tout ça. Vous savez, on en rabat beaucoup quand on essaie d'imaginer ça. Et c'est une chose qui trouble beaucoup les gens. Dans ma petite réponse à la BNF, au discours du président, j'ai évoqué ça, la vision de la défécation de ça. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut imaginer chaque individu qu'on voit, imaginez, l'imager. Là aussi, il n'y a pas de quoi pavaser non plus. Mais tout, voilà, alors finalement, les animaux, si les animaux nous pouvaient nous communiquer ce qu'ils voient de nos ébats à nous, alors que nous voyons les leurs, et nous pouvons les parler, on en rabattrait beaucoup de notre superbe. Moi, c'est la superbe que je veux personnellement abattre. Pas du tout la dignité, c'est autre chose, mais la superbe. Et la supériorité, l'idée de supériorité d'une espèce sur une autre, c'est une chose qui m'est tout à fait, évidemment dans le réel, bien entendu, mais si vous voulez, qui m'est tout à fait indifférente et qui m'est tout à fait insupportable. L'idée de supériorité, l'infériorité des animaux, c'est une chose que j'ai toujours eu du mal à admettre, même enfant. Il faut se souvenir de ce qu'on a éprouvé tant enfant, vous savez. C'est très important, ça. Évidemment, les enfants qu'on fait ou qu'on voit aident évidemment à ça. Mais l'enfant, c'est vraiment l'étalon numéro un de l'existence. C'est ce qui permet de comprendre tellement de choses. Tellement de choses. Regarder un enfant, c'est comprendre tellement de choses. Et c'est de s'interroger aussi. C'est vertigineux en même temps, bien sûr. Les gens n'aiment pas beaucoup le vertigineux aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas de vision triomphante de l'homme, j'ai la vision de sa grandeur. Je sais que c'est un terme qui est maintenant refusé, attaqué, etc. De sa grandeur, c'est-à-dire de son tragique, c'est-à-dire de sa complexité, de ses contradictions. Alors aujourd'hui, aller penser les contradictions, c'est impossible. Voilà, c'est pas possible, c'est le grand drame d'aujourd'hui, je crois quand même.
Progéniture, ce sont des figures basses. Je reprends la formule de Michel Suria, c'est des figures de rebut presque. Comment se met dedans la grandeur de l'homme ?
Quand j'ai dit bas, ça n'a pas le même sens. Dans le Matricule des anges aussi, il y avait une expression là-dessus. Et je crois que ce n'est pas bien compris ce que je dis. Bas, non, ce n'est pas le rebut, non, ce n'est pas le rebut. C'est encore une vision réaliste de la chose, de ce monde-là. C'est un monde créé de toutes pièces. Un monde qui n'existe pas. Donc il n'y a pas de bas ni de haut. C'est introduire une notion de réalisme, si vous voulez, enfin de roman réaliste. Mais moi, je ne vois pas les choses comme bas. Si c'était bas, ça serait... La bassesse, pour moi, c'est les sentiments bas. Mais il n'y a pas de sentiments bas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments bas. Puisque le sentiment qui domine, c'est le sentiment de désir. Le désir n'est pas un sentiment bas. Et puis il y a le jeu avec effectivement la propriété, l'appropriation, etc., le tarifage, etc. C'est pas une situation, comment dirais-je, si vous voulez, la bassesse dans le domaine romanesque, ça serait certaines figures de Balzac ou, je sais pas, moi, les Thénardier dans Hugo, ou dans Zola, je ne sais quoi, si vous voulez. Mais là, pas du tout. Il ne s'agit pas du tout, il n'y a pas de figure basse. Il n'y a pas de figure basse du tout. Ce ne sont pas des figures réelles. Même les étangs n'en sont pas vraiment. Ce sont des créations, si vous voulez. Ce sont des pensées. C'est pour ça que c'est une œuvre plus philosophique qu'autre chose. Si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris, je pense. Quand on lit vraiment l'œuvre, on s'aperçoit que c'est toujours un discours presque philosophique. C'est pas du tout un discours de... C'est toujours un discours philosophique, au fond. Et c'est une chose qu'il faudrait déterminer. Il n'y a pas la philosophie et la fiction. Il n'y a pas la fiction, la philosophie et le théâtre. Pour moi, c'est mêlé. Et ce qui tient dans l'histoire, c'est tout ce qui a une grande profondeur philosophique. Ce qui tient en matière d'art, soit de la peinture, la musique ou la fiction, ce qui tient le coup, c'est ce qui pense. Donc je pense que ce sont plutôt des figures philosophiques qu'autre chose, ou des ensembles philosophiques qu'autre chose. Mais là, il faut bien lire attentivement, il faut sortir de la fascination, et il faut lire vraiment, attentivement, et surtout avec ce principe que la pensée ne se lit pas seulement dans les ouvrages de philosophie. Et ça, c'est une chose qu'il faut répéter, c'est extraordinaire. La pensée n'est pas réservée aux ouvrages de philosophie. De même que penser n'est pas réservé au seul intellectuel dans une société. Tout le monde pense. La philosophie est un mode d'expression de la pensée particulier. C'est dommage qu'on en ait fait une catégorie au sens philosophie, l'histoire de la pensée. Mais une vraie histoire de la pensée tient compte des grands auteurs de fiction et de la grande poésie. Si vous enlevez des grands poètes, si vous enlevez Shakespeare, vous enlevez Dante, même moi, Rimbaud, tout ça, qu'est-ce qui vous reste comme pensée? La pensée, c'est tout ça. Si vous enlevez Cézanne, si vous enlevez Beethoven, si vous enlevez, etc., qu'est-ce qui reste? Je ne comprends pas. C'est une chose qu'évidemment un artiste de la fiction découvre petit à petit. Découvre et met en œuvre aussi. Moi, je pense que dans Progéniture, il y a beaucoup plus de pensées que dans bien des ouvrages philosophiques d'aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que les philosophes m'ont assez vite saisi, avant même les littérateurs et avant même les critiques, je veux dire. Ceux qui m'ont compris, c'est des gens comme Foucault et d'autres, hein, tout de suite, qui ont compris dans son ampleur. La lettre de Foucault ne fait pas état. La lettre qu'il m'a envoyée et tout ce qu'il a pu dire ne fait pas seulement état d'une puissance d'évocation, d'une puissance verbale. Il fait état d'une pensée à l'œuvre. Faut pas l'oublier. C'est étrange comme la défense toujours de ce précaré de la philosophie. Je ne comprends pas ça. Moi, c'est dit que par exemple, la plus extraordinaire art. Du 17e siècle, ce soit Descartes. C'est Descartes. Le style de Descartes, la langue de Descartes, c'est une langue sublime. C'est la grande prose de cette partie. C'est pas les autres. Donc oui, tout ça est extrêmement fluctuant. Il n'y a pas de frontières.
Vos figures, dans Progéniture, elles sont très résistantes. Elles donnent l'impression de résister à tout. Est-ce que Progéniture peut être vue comme un hymne à la résistance de la vie? Et est-ce que dans ces cas-là, Progéniture serait une œuvre d'art qui administre la preuve de la résistance à tout de l'homme ou de ce qui peut tenir lieu d'homme?
Non, mais c'est possible. Dans la mesure où ce sont des figures de toute façon, seulement le problème est-ce que ces figures ont... Elles sont peut-être résistantes dans la mesure où elles ne sont peut-être pas à voir d'une façon réaliste, si vous voulez, d'une façon naturaliste. Elles sont en elles-mêmes déjà des constructions de l'esprit. Ce sont des constructions de l'esprit, voilà, ces figures. Alors, je peux concevoir que Progéniture peut figurer, surtout ce que je fais maintenant, peut donner l'image d'une machinerie anti-humaine, bien faite, extrêmement renouvelée et toujours aux aguets, si je peux dire, de tout ce qui pourrait passer d'humaniste dedans, etc. Oui, c'est vrai, c'est possible, oui. Oui, on peut le lire, moi, évidemment, je ne peux pas ressentir ça trop, parce que je suis dedans. C'est moi, toutes ces figures. Chaque figure, c'est moi. Les étantes et les non-étantes, si vous voulez. À la mesure où je suis obligé de mettre énormément de moi-même pour la créer et pour la faire vivre, ne serait-ce que quelques jours, vous voyez, je suis obligé d'y mettre beaucoup de moi. En tout cas, mon énergie d'un temps, en tout cas. Mais je comprends très bien que, vu de l'extérieur, ça peut apparaître comme une machine de guerre, une machine de résistance, disons.
En pensant à partir de Progéniture, j'y avais vu, entre autres, ce trait de caractère, c'est-à-dire une résistance fabuleuse.
Un fictionneur, un auteur de fiction, c'est quelqu'un qui philosophe sans système, si vous voulez. Sans système préétabli. Regardez dans Balzac, dans Dostoïevski, il y a une extraordinaire force philosophique. Dans tous les dialogues de Dostoïevski et d'autres, et Stendhal, c'est extraordinaire. Et pourtant... Ils n'ont fait profession, sauf un peu de Dostoïevski, mais d'aucune rien du tout. Ils passent dans le discours de leur figure, peut-être des éléments d'un livre qu'ils lisent à l'époque, à ce moment-là, ou de ce qu'ils ont entendu dans un café, etc. Mais c'est ça la pensée, c'est penser par soi-même. On ne peut pas sempiternellement penser dans le même trou, dans le même philosophe, dans le même, vous voyez. On ne peut pas ça, c'est pas possible. Ou alors c'est une espèce de phagocytose. Il faut penser par soi-même, soi-même. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas nécessaire de connaître toute la philosophie pour penser. C'est bien de savoir, mais la philosophie, c'est au fond, c'est une sorte d'art aussi, comme les autres. Et pas forcément nécessaire de la connaître dans son entier. Dans ce cas, aucune œuvre d'art et aucune œuvre humaine ne serait possible. Si chaque fois qu'on fait, qu'on crée quelque chose, on devrait tout connaître. Regardez, même les savants, même les plus grands créateurs en matière de science ne savaient pas tout de ce qui les précédait, de ce qui précédait leur pensée. Ils avaient évidemment une espèce de connaissance, ils avaient une facilité pour se mouvoir dans tout ça, dans le passé. Mais ça ne veut pas dire que, voyez, comme les peintres avaient une connaissance totale de toute la musique. Il y a des grands musiciens qui ont écrit sans rien connaître de la musique d'Extrême-Orient, etc. C'est pareil. Pourquoi on ne pourra pas ouvrir la bouche ou tracer un mot sur une page sans connaître toute la philosophie? D'abord, ça serait impossible, d'abord. Une vie humaine n'y suffirait pas. Parce que vous devez, pendant ce temps, vous devez vivre. Vous devez vivre, vous devez gagner votre vie, vous devez vivre, vous devez, mais j'en sais rien, avoir une vie sociale, et vous devez travailler. Donc c'est impossible. Donc tout ça est absurde. Il faut penser quelquefois à ces choses très simples. Et savoir plus de choses n'est pas forcément une... La poésie, justement, la force poétique, la force... C'est d'aller plus vite aussi, ça permet d'aller quelquefois plus vite aussi. Plus vite que la leçon, si je peux dire. C'est l'intuition. L'intuition, plus personne n'en parle. C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire.
Est-ce que vous vous sentez isolé dans la création actuelle? Ou est-ce que vous vous sentez proche par la démarche de certains créateurs actuels?
Vous savez, on est isolé, c'est normal, dans la mesure où l'art est une voie, pas la seule, une voie vers la découverte de son propre isolement. Je dis isolement dans le monde, de toute façon, dans le monde entier. Vous voyez, on parle toujours de solitude, l'un, l'autre, etc. On peut être entouré d'amis, entouré d'enfants, entouré de ci, entouré de ça, et on peut être très, très... social, etc. Et en fait ressentir une sensation de solitude effarante. L'art fait comprendre ça, de toute façon. Fait aussi lever cette idée, cette réalité de la solitude. Quelle solitude que ces corps humains, Musset dans l'Oranzation. Et tout le grand art, du reste, indique ça, signifie ça. Et signifie aussi que ce qui permet aussi de supporter cette solitude-là, c'est effectivement le collectif, au fond. C'est la solidarité. Ça paraît banal, mais oui, ne pas être conscient de la solitude, c'est un problème, je ne comprends pas. Alors, évidemment, vous me parlez d'un isolement bien particulier, mais vous savez, quand la sensation de solitude, d'isolement, que je vous dis, qui est le lot de chacun, devient très important dans certaines périodes. En ce moment, par exemple, moi, l'isolement purement artistique ou intellectuel, ça compte pour assez peu, par rapport à cette énormité que l'art, justement, permet de saisir, alors, vraiment avec une rapidité extrême. Parce que nous sommes, même si nous venons de... Il ne faut pas oublier le mouvement qui fait que nous sortons de notre mer. C'est un mouvement de jet, presque. Nous sommes jetés sur la terre, quand même. Nous sommes jetés avec notre solitude, c'est évident. Car nous sommes jetés en exemplaire unique, si je peux dire. C'est une réalité comme ça qui est imparable. Imparable. On est rejeté, on n'est pas déposé sur un rocher au coin d'un carrefour. On sort de quelque chose, on sort d'un organisme et on est expulsé. On est expulsé. Il ne faut pas l'oublier.
Vous avez dit que la langue du désir n'existe pas. Vous avez essayé de l'écrire, cette langue. Ma question, cette langue du désir ne pouvait s'écrire qu'à partir de vos figures, qu'à partir de figures non humaines, des figures qui soient des pensées.
Elle n'existe pas. Quand on lit, j'ai lu une chose que je ne connaissais pas, bien entendu le nom, j'en ai vu des extraits, mais j'ai lu La philosophie dans le boudoir de Sade. Là, je dois dire que vraiment le désir y est. C'est une œuvre extraordinaire. Et alors là, vraiment, oui, la langue du désir existe. Là. La scénographie, la langue, c'est un texte phénoménal, sans exemple, sans doute. C'est une formidable chose que cette œuvre est terrible. Et la langue du désir existe. Elle est telle qu'il pouvait, le maximum de ce qu'il pouvait faire, dans sa charnière de siècle. Voilà. Cette charnière, du reste, devait les chatouiller, certainement tous. S'il s'est passé tout ce qui s'est passé en cette période extraordinaire, en France en particulier, c'est que le changement de siècle a dû en chatouiller plus d'un, je crois. Et que ça a provoqué une espèce d'érotisation généralisée du monde, enfin du monde occidental en tout cas. Les charnières, c'est important, les charnières de siècle. Hein. Et celui-là, et celle-là, qu'est-ce qu'elle a pu donner? Se retrouver comme lui entre la Révolution, l'Empire, je dirais presque quelle jouissance en même temps, je pense. C'est des choses qu'on oublie, ça. Vous voyez, comme deux plaques, vous savez, comme deux plaques terrestres, vous voyez, qui se rencontrent. Vous avez l'ancien, le nouveau. Regardez la Révolution, cette fureur érotique de la Révolution, érotique et sanglante, érotico-sanglante, c'est extraordinaire. Il y a peu d'exemples dans l'histoire du monde de moments comme cela. Oui, c'est une époque érotisée d'une façon. Qu'à voir les textes, à lire les textes des pamphlétaires de l'époque, c'est inouï. Les actes, c'est terrifiant. Les massacres des Septante, c'est quelque chose de terrifiant, vraiment, de terrifiant. Heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps. Là, il y a un mélange là, de la débauche et du meurtre qui est vraiment. Vous savez, Sade, il n'appartient pas à n'importe quelle période. Hein.
Pour être un peu plus clair, votre langue qui irait vers la langue, elle a pris la forme de figures qui sont plus humaines, qui sont des figures de pensée. Elle aurait pu rester dans des formes plus conventionnelles, dans des figures humaines, en fait. C'était plutôt ça, ma question.
Oui. Bon, vous savez, déjà, des tombeaux, la préface à l'édition japonaise en 69, j'ai dit justement que la sexualité normale, si je peux dire, m'apparaissait comme trop banale pour moi. Si vous voulez, le désir normal, le désir dans sa forme normale, ne me paraissait pas suffisant pour faire bouger la langue. Voilà, je peux dire. Il fallait un désir, sinon clandestin, parce qu'il n'est pas clandestin du tout dans les textes, du moins, illicite, pour que ce verbe-là, puisse se développer. Je ne le voyais pas, je ne le vois toujours pas, se développant dans une scène licite. Alors je vois autre chose. À ce moment-là, je retombe dans la littérature, si vous voulez, pour moi. Pour moi, c'est retomber dans la littérature.
C'est de ce côté-là que vous avez cherché votre langue du désir.
C'est ce côté qui s'est imposé. Hein. Que s'est construite petit à petit, que la langue s'est déformée, du reste. Et si vous voulez, si vous transformez la langue, vous pouvez pas faire autre chose que transformer le monde. Le monde que cette langue, dont cette langue va rendre compte. Et inversement, si vous voulez donner une scène vraiment transformée, non humaniste, non psychologiste, etc., 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 non naturaliste, et bien à ce moment-là, vous vous exposez à un changement de langue. Alors c'est vrai que c'est intéressant à creuser, c'est un problème, on peut-être le faire, j'en sais rien. Moi je ne me vois pas du tout, parce que la langue est un élément de ce monde. Elle n'est pas du tout une chose plaquée sur ce monde. C'est un élément, ce monde. Dans ce monde, on ne peut parler que cette langue-là. Et comme c'est du théâtre tout le temps, de plus encore de progéniture maintenant, comme vous le verrez, je ne peux pas imaginer une autre langue. aucun argot, aucun etc. ne pourrait rendre compte, ne pourrait être, disons, tenir plus de quelques minutes dans ce monde. C'est impossible.
J'ai l'impression que les figures de progéniture, les putains, les hommes, ne se révoltent pas contre ce monde dans lequel ils sont, contre les règles et les tabous de ce monde. Est-ce que vous avez pensé progéniture ainsi ?
On peut voir, vous savez, j'en ai un peu parlé, on peut voir aussi ce texte, ce livre-là, comme l'expression aussi d'une sorte de... comment dire ? L'expression d'une indifférence aussi, très grande au monde aussi, et d'une espèce de chose un petit peu à la hindoue, quoi, une espèce de, voyez, d'abandon. Il ne faut pas oublier une chose, moi j'ai été élevé catholiquement, et j'ai entendu toute mon enfance l'abandon à Dieu. L'abandon à Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça, l'abandon à Dieu ? Il faut s'abandonner à Dieu. Vous vous rendez compte, moi j'ai été élevé comme ça, avec perpétuellement cette chose. S'abandonner, quasiment, et même on faisait le geste, quasiment. Donc c'est rien d'extraordinaire, au fond je réalise une injonction christique, une injonction chrétienne au fond. La figure du putain étant la figure de ceux qui s'abandonnent le plus à la volonté des uns et des autres. Mais j'ai entendu ça toute mon enfance. Ah bon, il faut s'abandonner à Dieu, à la volonté de Dieu. Parce que même le Christ le dit à la fin de sa vie. Oui, c'est au Mont des Oliviers où il est déjà sur la croix. Donc dans le pire moment qui soit de sa vie entre guillemets, et il dit, ce n'est pas ma volonté du monde, c'est la tienne. C'est la volonté du Père. Et le Père le met dans une situation effroyable. Une situation pire que la prostitution. Une situation de mort, de mort, de crucifixion, et de supplice. Bon, franchement, et de moquerie, et de... C'est inouï, quand même. Et c'est pour ça, moi, que j'ai pas l'impression... Oh, j'ai parfois l'impression que je fais une œuvre vraiment scandaleuse, et en même temps, non, pas du tout. Moi, c'est dans la droite ligne de ce qu'on m'a enseigné, si je peux dire. Si je veux être un petit peu provocant.
Au fil de la lecture de Progéniture, c'est quelque chose qui m'a surpris. Je m'attendais à un moment donné à y voir de la révolte de ces figures-là. Je cherchais le moment où il y aurait une révolte, et bien sûr, je ne l'ai pas trouvé. Et voyez, en tant que lecteur, ça m'a surpris.
Oui. Non, parce qu'à ce moment-là, je ferais du réalisme, je ferais du naturalisme. Et je choisirais d'autres figures que celles-là. Ces figures sont des constructions de l'imagination et d'esprit, de l'esprit surtout. L'imagination, ça vient après. La construction de l'esprit, elles sont inventées. Pour ça, je parle d'œuvres philosophiques, parce que ce sont des inventions de l'esprit. Donc, les constructions de l'esprit n'ont pas à avoir de révolte particulière. Il y a des révoltes, des petites révoltes épidermiques, des moments, mais ça, c'est de l'ordre du comportement, c'est comportemental, comme on dit. Mais c'est pas politique. Même les ouvriers, ce que j'appelle les ouvriers, n'ont pas de... Il y a une espèce de fatalité du salaire, pas de la grève, mais disons du désembauchage, de la cessation du travail, une fatalité. Eux aussi sont abandonnés à leur situation sociale, si je peux dire, à leur situation conjugale. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de... etc. Et il y a une vie normale aussi, enfin une vie normale. Une espèce de vie minimum. Eux sont à la limite des deux mondes. Et il n'y a jamais aucune allusion à l'autre monde, à l'autre face. Pratiquement jamais. Jamais. Mais dans ce que je fais maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus aucun lieu. Plus aucun lieu repérable. C'est mon idée. Hein. Je l'avais déjà dit dans l'explication. Qu'il n'y ait aucun lieu repérable. Ça soit aussi bien n'importe quel... Voilà. Dans Progéniture, il y a encore des lieux, mais à la fin, c'est fini. Dans les 50 dernières pages, je crois qu'il n'y a plus rien du tout. Il y a quelques noms, ça. Même les noms disparaissent, là. Vous savez, c'est dur quand des noms disparaissent. Alors, qu'est-ce que c'est comme travail, ça ? C'est pas un travail philosophique, ça. de suppléer à l'absence de lieu et de nom pour les figures.
Pour que ça soit générique.
C'est une opération philosophique très dure. Pourquoi pas ? Ce n'est pas une opération de fiction. Quand vous êtes à ce point-là, de la, vous voyez, de la rigueur, de la nécessité, c'est une démarche philosophique, je pense. Ouais, je ne veux pas une philosophique, enfin une démarche de pensée.
Progéniture est donc un monde immuable, un monde qui n'est pas fait pour changer.
Qui n'est peut-être pas fait pour durer. Il ne dure que le temps de l'œuvre, c'est tout. C'est une construction d'esprit, ça s'évanouit dès que la mécanique verbale qui le maintient s'arrête. Si vous voulez. Mais malgré tout, il y a effectivement. C'est un livre qui soulève le problème de la fiction, si bien entendu. Parce qu'évidemment, il y a des éléments. Il y a des éléments de réalité. Il y a des métiers, des chantiers, des trucs comme ça, des trucs. Mais c'est très générique. Moi, mon désir, c'est d'aller vers le plus de générique possible. Voilà. De plus en plus. Plus de noms, plus de rien du tout. Mais je vous dis, c'est une opération de pensée. Se détacher, se priver des noms, des appellations, d'un tel, d'une telle, etc. C'est très difficile. Il faut donc transformer ça en. Il faut trouver d'autres choses. Trouver des périphrases, trouver d'autres appellations, donc changer tout le système d'interpellation de l'un à l'autre. Il faut changer forcément. Quand vous ne pouvez plus dire « toi », vous êtes obligé de désigner par une particularité. Ça. C'est très dur, ça. Mais ce sont des problèmes vraiment... de penser, je pense qu'il faut... On y réfléchit. Là, il n'y a plus de... Il n'y a plus, évidemment, l'intuition joue son rôle, mais il n'y a plus, si vous voulez, c'est plus une question d'esthétique ou d'artiste. C'est pas un truc d'artiste, ça. C'est un truc de pensée.
Dans la revue Ligne numéro 4, qui date du février 2001, il y avait une enquête, Désir de révolution. Et vous répondez à cette enquête par ceci notamment. La révolution est désirable, c'est évident, pour deux raisons, dont l'une est absolument irréfutable, c'est l'état physiologique, matériel, social et politique de centaines de millions d'êtres humains sur notre planète. L'état physiologique, matériel, elle est difficile pour les figures de progéniture, et donc j'en reviens toujours, oui... Ils se révoltent pas, alors que leur état matériel est difficile, que les putains mangent de la charogne.
Oui, mais c'est pas du tout par c'est pas par pauvreté, si je peux dire. C'est par état. C'est comme ça. Ça ne tient que comme ça. Ça tient comme ça. Il faut aussi noter une chose, c'est que les ouvriers, les normaux, donc enfin les étangs, enfin s'accommodent parfaitement de cette alimentation. Des putains, puisqu'ils en apportent. C'est peut-être là où se situe la résistance dans ce livre, dans ces textes-là. Et ça continue, la charogne-là. C'est qu'il y a aussi une dérision, il y a une mise en dérision de la nourriture, de l'alimentation, des odeurs, de tout ça, etc. Il y a une mise en dérision de tout ce qui a contact avec ça. Pas les putains qui sont en dehors de tout, mais de tous les hommes, de tous les individus qui sont là, qui supportent parfaitement cette chose-là. Donc c'est une absurdité, vous voyez. Ça veut dire, ou alors que le monde est une charogne, vraiment, ce qu'il est dans beaucoup d'endroits, quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. Nous, on vit dans un monde très aseptisé. Si vous circulez, je ne sais pas si vous avez voyagé un peu, mais bon, c'est même pas la peine d'aller très loin, même quelquefois. Moi, maintenant, mais enfin, à l'époque, pas la peine d'aller très loin.
Déjà de donner une langue à ce peuple, de donner une langue aux putains, c'était déjà un acte de révolte incroyable. De faire que cette langue existe est déjà une révolte. Si ce monde de progéniture est immuable, s'il ne contient pas de révolte, c'est parce que la langue des figures de progéniture ne permet pas de dire cette révolte. Et je précise alors, cette langue est celle donc des putains, cette langue qui est la leur, n'a pas honte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. C'est-à-dire que donc, cette langue ne peut pas se révolter.
On revient à ce que je disais tout à l'heure. Si je les, si par mes gardes, par malheur, je devais les faire parler en langue normative, peut-être qu'ils parleraient la révolte à ce moment-là, peut-être. Peut-être. Alors que là, la langue est suffisante. Comme là, c'est une langue du désir, c'est une langue qui répond au désir, et qui le stimule aussi, qui est faite pour le stimuler. Car le don principal de chacun, putain, c'est le don du verbe quand même. Celui qui ne l'a pas n'est en moins de valeur. Voilà. Et donc, dans le texte actuel, du reste, c'est même explicité, ça, tout ça. Explicité. Donc, il y a évidemment d'autres dons, d'autres qualités, d'autres formes, mais le don du verbe, évidemment, parce que c'est le verbe qui provoque le désir. Le désir ne vient pas tout seul. Le désir n'existe pas tout seul. C'est peut-être ce qu'on peut tirer, entre autres, de cette œuvre-là. On pourrait peut-être tirer ça, au fond. C'est que le désir n'existe que parce qu'il est, comment dirais-je, convoyé, ou si je peux dire, sur un support qui est le verbe. Alors, d'une certaine façon, ça rejoindrait assez bien ce que je pense à la pornographie, moi. C'est une chose. J'ai revendiqué à une époque ce mot contre le mot érotisme. Hein. Ben, je vais expliquer ça contre le mot bourgeois, etc. Maintenant, vu ce qu'est devenu la pornographie, la façon dont elle est effectivement, dont elle fait tâche, si je peux dire, sur une grande partie de la vie, quand même, des gens aujourd'hui, je trouve qu'il est bon. Il est peut-être bon de rappeler que le désir, c'est du mot aussi, c'est du verbe. C'est même principalement ça. Peut-être c'est principalement ça. Parce que la pornographie est tellement faible, est tellement nulle dans ce domaine, que ne reste que le désir. Et c'est pour ça que ces films sont d'une stupidité, d'un ennui colossal. Et quand même, il faut bien dire, d'une laideur. Je veux dire, ça vous décourage de vivre. Oui, c'est des films qui découragent de vivre, pour moi personnellement. Et penser qu'il y a quand même un nombre considérable de gens, et même d'intellectuels, qui se contenter de ce genre de trucs, c'est renversant. Je comprends pas. Alors c'est une façon d'insister pour lutter absolument contre l'intolérance. Alors c'est possible d'accepter ce qui est intolérable au fond, voilà, au maximum, enfin, de ce qu'on peut, parce qu'on en est là un peu aujourd'hui. On va au maximum de ce qu'on peut tolérer, vous voyez. Il y a une grande tolérance en France en ce moment quand même. La tolérance, je ne sais pas ce que c'est, enfin en tout cas, tolérance telle qu'on l'a, telle qu'on nous explique, telle qu'on nous dit que c'est, elle est très, très, elle est très active aujourd'hui. Et si vous voulez, maintenant, le jeu, c'est quasiment de pousser la tolérance jusqu'au point où vraiment on ne peut plus. Enfin, moi, je suis très tolérant, mais je dis malgré tout ce que je pense, et ce que j'éprouve. Quand vous voyez la pauvreté, j'arrive à en regarder, de tomber dessus, il y en a plein, vous êtes tombé dessus, et c'est absolument misérable. C'est le contraire absolu de ce que je fais. Non, mais totalement absolu, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de bêtise sociale. D'abord, c'est moche filmiquement, en général. Il y a eu des pornos très bien, très beaux, un peu comme ça, tremblant, très beau, avec des caméras merdiques et tout, c'était beau. Mais là, c'est léché, c'est une petite société ridicule, enfin, des locaux horribles, des supports, des lits minables, souvent des corps ridicules aussi. Vraiment tellement marqué socialement, tellement marqué petit bourgeois, c'est tout ce qu'on peut haïr, en fait, tout ce que le grand roman occidental nous a, et occidental et japonais et chinois, nous a habitués à détester.
Voici donc pour cet entretien avec Pierre Guyotat qui a couru sur deux émissions, qui se termine un peu brusquement parce qu'on était arrivé, et oui, à la fin de la bande pendant l'enregistrement. Ça arrive.